puisque nous sommes en famille. Une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer, mais il le faut. Dans quelques semaines ou dans quelques mois, je ne sais pas, je vais être mis en examen, être jugé et condamné. Il nous faut retrouver la violence du choc de cette annonce que Jésus a faite à ses apôtres. Alors que tout allait si bien, les discours, les miracles, Jésus qui ferme la bouche des pharisiens, lui si parfait, si bon, si patient, si doux, si ferme, il avait toutes les qualités. Et il nous dit qu'il va être jugé, condamné et crucifié. C'est intolérable. Non, Seigneur, ce n'est pas possible, dit saint Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ce court dialogue précède immédiatement dans l'évangile de saint Marc, l'évangile que nous venons d'entendre. Ce dialogue entre Jésus et Pierre, ce dialogue entre Jésus et nous, qui sommes confrontés à la souffrance et à la mort, et qui nous permet de mieux comprendre la transfiguration. Jésus sait que les apôtres ne peuvent supporter le dénouement de sa vie d'ici-bas, la condamnation injuste, la passion douloureuse, la mort horrible de la croix, réservée à ceux qui ne sont plus rien dans la société. Jésus sait que la croix nous écrase lorsqu'elle est vécue sans lui. C'est pourquoi il veut montrer à ses apôtres et à nous-mêmes ce qui est au-delà de la croix, au-delà de chaque croix, la résurrection et la joie du ciel, la vision éternelle de sa gloire infinie. Alors laissons-nous à notre tour ce matin inviter à cette rencontre et contemplons. L'Évangile est un rendez-vous avec nous, cet Évangile-là. Un rendez-vous dont l'enjeu est tout simplement notre vie éternelle, recherchée dans la foi, à travers ombres et lumières de notre vie. Et celui qui nous fixe le rendez-vous n'est autre que la Sainte Trinité tout entière. Dans cette rencontre à la fois passée et présente, ancienne et toujours nouvelle, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont là, chacun tenant sa place propre. Dans notre Évangile, le Père désigne son Fils comme celui que nous devons écouter, suivre, pour parvenir à la montagne éternelle du ciel. L'Esprit Saint, c'est lui qui est présent dans la nuée lumineuse qui enveloppait Pierre, Jacques et Jean et nous avec eux. Cette même nuée lumineuse qui planait au-dessus des eaux à la création, cette même nuée lumineuse qui couvrit de son ombre la bienheureuse Vierge Marie à l'Annonciation pour la recréation du monde dans l'incarnation du Verbe. Cette même nuée lumineuse qui couvre les saints. Ainsi est Dieu avec nous, dans son infinie toute-puissance de gloire, par ailleurs si discrète que nous peinons à la voir. Et pourtant, elle est là. Dans ce rendez-vous avec la Trinité, la première chose que Jésus nous demande, c'est de nous décentrer de nous-mêmes, de nos problèmes, de nos attachements au bien créé, si limités et incapables de satisfaire notre cœur, que Dieu seul peut combler par sa présence. Il n'est pas question d'oublier nos croix, nos difficultés, nos souffrances, notre vie, comme si elles n'existaient pas, comme si est toujours un mensonge. Dans une sorte de stoïcisme absurde, on supporte par volontarisme, mais au contraire pour les mettre en perspective avec la finalité, la gloire du ciel. Il nous faut être constamment vigilants. Même nos efforts de carême peuvent porter la tentation, tentation permanente, de rester égocentré, avec un champ de vision qui se limite à 10 cm autour de notre nombril. Mes efforts de carême, ma solidarité avec les autres, mon progrès spirituel, ma vie. Nous décentrer de nous-mêmes. Le carême n'est pas une cure d'amaigrissement avant l'été, ni un challenge pour être pur. Il est une recherche de Dieu. Les moyens que nous donne l'Église, le jeûne, l'aumône, la prière, ne sont que de l'ordre du moyen. Jeûner pour aimer davantage Dieu en nous détournant de ce qui n'est pas Dieu et qui nous alourdit si facilement. Prier davantage, prier mieux pour communier à la présence du Christ agissant en nous. Faire l'aumône pour vivre plus libre de tous ces attachements au bien créé en nous privant de ce que l'on donne, en nous rappelant que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Nous décentrer de nous-mêmes pour que notre présence à Dieu soit un regard porté sur lui, recherché, voulu, désiré pour lui-même. Il y a dans la liturgie du carême une antienne qui nous fait dire les yeux fixés sur Jésus-Christ. Entrons dans le combat de Dieu. Ces paroles nous fixent l'horizon du regard de notre cœur. Continuons de regarder cette transfiguration du Seigneur. Hier, avec Pierre, Jacques et Jean, la rencontre a eu lieu au mont Tabor, une petite montagne qui se dresse à environ 600 mètres d'altitude, au milieu d'une vaste plaine, à une quinzaine de kilomètres de Nazareth, un lieu que Jésus connaissait parfaitement, tout comme il connaît parfaitement les lieux où il peut nous rejoindre, où il nous donne rendez-vous. Ce sont les lieux de notre vie quotidienne. Il est si proche de nous, dans nos joies et dans nos croix. Ça, c'est pour les apôtres. Et nous, où pouvons-nous trouver de façon certaine Jésus et la Trinité tout entière? Dressons trois tentes. Dans ces tentes, il se révélera. Certainement, il l'a promis et il tient toujours ses promesses. La première tente, c'est celle de l'Eucharistie, dont la tente de la rencontre, pour les Hébreux au désert, n'était qu'une annonce lointaine, mais réelle. Dans l'Eucharistie, la foi nous dit qu'il est réellement et substantiellement présent, avec son corps, son âme, son humanité et sa divinité, avec toute la Trinité agissante. Lorsque nous sommes à la messe, la Trinité est là. La troisième prière eucharistique l'exprime. Elle s'adresse au Père. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Chaque messe est notre mont Tabor, au fond de notre cœur, dans la mesure où nous consentons à être là, par lui, avec lui et en lui, comme le prêtre le dit à chaque messe, juste avant le Notre Père. La deuxième tente, c'est une tente où nous pouvons nous retirer du monde et nous trouver face à Dieu, Dieu seul, par l'intermédiaire du prêtre. C'est la confession. Oui, nous sommes bien dans une tente, le confessionnal. À l'abri des regards, sous le regard de Dieu. Et cette perception dans la foi de la puissance et de la gloire divine se reflète alors sur nous-mêmes en nous restaurant dans notre dignité d'enfant de Dieu, celle même du baptême. La confession, disait saint Augustin, est un nouveau baptême. Elle nous restaure complètement et nous voyons cette puissance de Dieu sur le mal qui était dans notre cœur et qui n'y est plus, par le pardon. Une jeune fille de 19 ans en a fait la belle expérience. Elle avait décidé de recourir à l'avortement de l'enfant qu'elle portait. En était désespérée, mais la décision était prise. Le rendez-vous était pris. Et un jour qu'elle déambulait dans Notre-Dame, elle voit au fond d'une chapelle auxiliaire un prêtre assis devant une table. Elle va le voir parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire et commence par lui dire « Je ne viens pas et je ne veux pas me confesser. Asseyez-vous. » Une demi-heure et une bonne confession après, elle retrouve ses amis qui lui disent « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es plus la même que quand tu es partie. Tu es toute belle. » « Oui, répond-elle, je suis en paix, je garde mon enfant. » Transfiguration. Elle avait croisé le regard de miséricorde et la gloire de Dieu. La troisième tente, enfin, c'est celle de la prière. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret. Il voit ce que tu fais dans le secret et il est là avec toi. Elle demande un effort supplémentaire, sans doute, car il faut que nous consentions dans la prière à ne chercher que Dieu, à nous mettre à son écoute, et pour cela à nous détacher des biens créés qui nous encombrent, pour regarder Jésus qui nous regarde. Comme Pierre, après son reniement qui a croisé le regard de Jésus. Dans son regard, j'ai tout compris, pouvait-il dire, en pleurant amèrement son reniement. Nous avons à veiller à ne pas être comme le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue qui réclamait un chevreau à son père pour festoyer avec ses amis. Mais toi, mon fils, tu es toujours avec moi. Mais non, il lui fallait son chevreau, son bien créé, limité, pour lui. Sans son père. Il était passé à côté de l'essentiel. Et c'est encore le regard de notre cœur qu'il nous faut constamment travailler en ces moments de prière. Certes, nous avons toujours à faire ces efforts, que ce soit dans l'une ou l'autre de ces trois tentes, pour dégager notre attention de nous-mêmes. L'expérience de la prière, comme aussi dans l'Eucharistie et la confession, n'est pas nécessairement ni fulgurante, il y en a, mais pas toujours, ni sensible. Elle est le plus souvent dans le dénuement de la foi. Mais si nous acceptons ce dénuement de la foi, alors Dieu peut travailler. Presque à notre insu. Sainte Thérésa de Calcutta, aux œuvres si belles dans le monde entier, en a fait l'expérience. Elle n'avait aucun signe sensible de la présence de Dieu au tabernacle. « Il n'est pas là », a-t-elle pensé pendant 40 ans. Et pourtant, elle n'a jamais manqué les 2 heures quotidiennes d'oraison devant le Saint-Sacrement. Même si elle pensait qu'il n'était pas là. Elle n'y a jamais manqué. Et sa persévérance lui a permis de voir Dieu. Elle a vu la gloire de Dieu à l'œuvre dans les milliers de pauvres qu'elle et ses sœurs ont aidés à découvrir Jésus, à mourir dignement, à savoir qu'ils étaient aimés, alors qu'ils étaient les rebuts de la société, abandonnés sur un trottoir ou dans un caniveau. Elle et d'autres ont vu cette gloire. J'ai vu Dieu dans ses mains et dans son regard, a pu dire un journaliste athée de Mère Teresa. J'ai vu Dieu dans ses mains et dans son regard. Parce qu'elle était là, les yeux fixés sur Jésus-Christ, Dieu a fait tout le reste. Voici les trois tentes que le Seigneur nous propose de planter pour rester avec lui, le retrouver à chaque fois. Trois tentes dans lesquelles nous sommes certains qu'il est présent, dans la foi, certes. Nous sommes certains de pouvoir contempler les rayons de la gloire divine et à en rayonner à notre tour. Puisse ce temps de carême, à travers les souffrances acceptées et offertes, nous guider vers le Christ, notre Pâques.